fin de journée du vendredi. On se retrouve avec Christian Lemay, bonjour.
Bonjour.
Donc Christian, toi tu représentes le Scorpion Masqué, t'es éditeur à toi tout seul pour l'instant pour faire le Scorpion Masqué.
Ouais, ben pour ceux qui ont vu la dernière vidéo du vendredi de pas Yellow mais de Scorpion Masqué, donc j'ai présenté toute mon équipe, le comptable, recherche et développement, direction artistique, il y avait Christian.
Donc faut pas se tromper de Christian en fait, en contact.
Voilà, donc c'est ma petite compagnie que j'ai démarrée septembre 2006. Et puis au début, j'étais prof de littérature pendant les deux premières années. Je faisais ça à temps partiel. Et puis en 2008, c'est devenu assez grand pour me permettre de vivre. Mais pour l'instant, j'ai Marie-Ève qui fait du graphisme à environ 8 heures par semaine. Mais sinon, je gère tout en fait.
Bah, puisqu'on a commencé avec ça, on peut parler de ça ou on parlera des nouveautés de Cannes après, hein, tant qu'à faire. Donc du coup, quand tu dis en 2008 j'étais assez grand et maintenant tu réfléchissais, tu m'avais dit en off que apprendre éventuellement quelqu'un. Comment t'as géré petit à petit le développement en fait, parce que tu es au point d'hésiter, enfin de savoir si tu prends ou pas. Comment tu fais ce choix de sauter le pas? Est-ce qu'au début tu as toujours dit je fais que pour moi? Et puis je garde ma petite structure parce que c'est confortable, il y a que moi, etc. Ou t'as quand même envie d'aller de l'avant, et donc forcément, à moins de sauter le pas, c'est la grande aventure. Après.
Ben oui, effectivement, c'est la grande aventure, c'est la grande question. Avec le temps, les choses ont beaucoup changé, en fait. Au début, c'était simplement pour me faire plaisir, à temps partiel, parce que j'avais un très bon emploi, une permanence et tout, un plan de pension même. Et au début, c'était un loisir, puis finalement, c'est devenu un gagne-pain. Et pendant longtemps, ça a été que toutes les décisions étaient prises dans la mesure où je voulais gagner ma vie de façon sécuritaire, donc pas me planter, parce qu'il y en a plusieurs qui se plantent dans le jeu de société ou qui ne durent pas longtemps. Et là, ben, la compagnie elle a eu une bonne croissance et je suis au point où je me pose cette nouvelle question. Allez, est-ce que je prends de nouveaux risques pour aller un peu plus loin ou est-ce que je demeure dans la même structure? J'ai beaucoup de projets. Je suis rendu à 22 jeux publiés quand même, donc j'ai envie de faire de nouvelles choses. Là, on a nos petites vidéos explicatives que vous avez peut-être revues. Bon, ça fait à peu près une minute et demie. Il y en a d'autres qui nous en ont demandé, donc on pourrait commencer à faire ça. La compagnie a des plans d'investissement aussi, donc pour diversifier les affaires, il n'y aurait plus que de l'édition, mais il y aurait d'autres trucs qui sont encore confidentiels. Mais bon, tout ça jumelé à la demande à l'international, parce que là, on traduit en italien, en espagnol, en polonais, tout ça demande beaucoup de temps pour vendre et négocier, mais aussi pour adapter, localiser dans les autres langues. Et en plus du fait que, bon, vous le savez, il y a beaucoup de jeux, certains disent trop de jeux, et pour faire sa place, il faut avoir un plan de marketing, un plan de communication qui demande énormément de temps. Et ben moi, à un moment donné, j'ai 40 heures dans ma semaine de travail et j'arrive plus à fournir. Ça devient une petite frustration professionnelle même. J'ai plus beaucoup de temps pour développer des jeux. Et les jeux, c'est ma passion. Je dis souvent à la blague, je suis un homme d'affaires par dépit. Je suis éditeur de jeux, j'aime les jeux. Bon, je m'y suis fait. Je crois que je m'en tire pas trop bien, pas trop mal. Ouais, quel lapsus. M'en tire pas trop mal. Mais bon, tout ça fait en sorte que je commence à avoir sérieusement besoin d'aide. Au moment où on se parle, je me pose la question, est-ce que j'engage quelqu'un avec beaucoup plus d'heures justement pour me dégager et pour pouvoir amener la compagnie plus loin? Je n'ai toujours pas la réponse.
Et du coup, comme tes jeux ils sont disponibles à la fois au Québec, évidemment, et également en France, par exemple, tu as noté des... Alors, outre les différences de titres pour certains jeux... parce qu'il faut s'adapter aux expressions de chaque pays. Tu as des jeux qui ont marché sur un marché plutôt qu'un autre? Tu as des évolutions là-dessus?
Tout à fait. Un des exemples assez flagrants, c'est La Chasse aux Lutins, qui a dû vendre 1500 exemplaires en France, qui est une assez mauvaise vente. Et au Québec, on doit être pas loin de 8 à 9 000. Donc, pour un marché qui est 10 fois plus petit en termes de taille. Donc, c'est une différence vraiment spectaculaire. Parfois, ça s'explique mal, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, ça s'explique par des références culturelles. Donc, les lutins sont très à la mode. C'est une marchandise qui se vend beaucoup pendant les fêtes au Québec. Donc, on peut expliquer le succès de ce jeu-là comme ça au Québec. Il y a aussi, bien sûr, la notion de la présence. Donc, je suis au Québec, je suis québécois, je fais le tour des boutiques, tout le monde me connaît, la presse me connaît même. J'ai une très bonne presse. Ce qui fait que mon implantation sur le marché est bien meilleure que, bon, de la France, je fais tout à distance ou presque. Je viens à Cannes une fois par année. Donc, évidemment, il y a ça qui joue. comme tu disais, il y a les références culturelles. C'est pas faux, marche bien en France simplement à cause du titre. Ben, le jeu est bon, mais je veux dire, le titre fait qu'il vend plus. Le réseau des ludothèques fait en sorte que la chasse aux monstres se vend très, très bien en France. Et il se vend très bien au Québec, mais il se vend mieux en France. Donc, on a là quelque chose qui est un outil qu'on n'a pas au Québec. Les ludothèques n'existent pas. Et ça aide vraiment à diffuser les jeux jeunesse beaucoup plus. Donc, voilà quelques exemples assez marquants.
La chasse aux monstres, d'ailleurs, qui a bénéficié d'un relooking, là, pour cette... c'est quoi? C'est maintenant, hein? C'est pour Cannes ou pas loin, en tout cas? La réédition, enfin, le repackaging complet?
Alors, la chasse aux monstres, édition anniversaire, est sortie en mai 2014, donc il y a près d'un an. Et donc, ça faisait 5 ans que le jeu était sorti. J'avais depuis longtemps l'idée de faire une édition un peu plus de luxe, parce que c'était un jeu qui, malgré ses 5 ans, avait des ventes très stables, voire en augmentation. Ce qu'on voit à peu près jamais. Il n'y a aucun jeu, ou peut-être les Aventuriers du Rail, mais il n'y a aucun jeu qui, avec le temps, se met à se vendre plus. Et pourtant, lui, c'était le cas. Et donc, le jeu était solide, je le savais, très apprécié. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette version de luxe. Et la licence que... J'avais vendu une licence à Grana, chez les Polonais. Et eux... Pour la version polonaise, ben, ils avaient fait justement un truc nouveau, un nouveau packaging avec la boîte placard. Et j'ai dit, tiens, la voici, ma version de luxe. Et là, on avait de bonnes ventes. Et là, on a des ventes juste extraordinaires. On n'est pas loin de 600 exemplaires par mois. C'est énorme.
Juste en changeant un format de boîte, finalement.
Juste en changeant format de boîte, illustration. Le succès d'un jeu ne repose pas que sur ses qualités ludiques. C'est un jeu fabuleux, c'est un jeu extraordinaire pour les enfants. Maintenant, il y a un million de trucs, donc il y a bon, la communication. Et parfois, ça peut être simplement un concours de circonstances. Il y a un autre jeu qui ressemble beaucoup, qui sort à peu près en même temps, et ça plombe le succès d'un jeu. Alors, c'est, je dis souvent, ça prend une seule raison pour qu'un jeu ne fonctionne pas, et ça en prend 1000 pour qu'il fonctionne.
Et du coup, ton plus gros succès, c'est ça, c'est la chasse aux monstres, ou t'as d'autres jeux aussi avec gros succès?
Alors le jeu, moi, évidemment, j'ai pas le genre de jeu dont on parle beaucoup souvent sur les sites sérieux, hein, parce que je fais pas du jeu de stratégie, même si moi-même je pose du cube à l'occasion. Mais la plus grosse vente, c'est un jeu qui s'appelle au Québec Je te gâche que, et qui en France s'appelle Bluff Party, qu'on fait en coédition avec Cocktail Games. Je suis pas mal certain qu'on a franchi les 150 000 exemplaires vendus. Et c'est un jeu dont personne n'a entendu parler pourtant. Donc vraiment, c'est assez spectaculaire. Voilà, c'est ma plus grosse vente, mon plus gros succès.
Je crois que Mathieu Despnous disait qu'en fait, ce jeu, il se vendait, les gens l'achetaient, en fait, et jouaient pas forcément, en fait. Et alors, j'avoue, j'ai fait une partie, quoi, un soir. C'est pas évident à sortir, en fait, comme je le sortir en soirée avec des amis, en faisant d'autres choses, et c'est pas évident, et tout le monde prend pas forcément, mais c'est hyper original, comme jeu. Typiquement, on a interviewé Roberto Fraga, ça rentre un peu dans ce genre de jeu, un petit peu, différent, quoi, qui sort de l'ordinaire.
Je crois même qu'il y a eu un Bluff Party 2, non? Ça va avec?
Oui, alors il y a le Bluff Party 1 et 2, comme il y a le Je te gâche que 1 et 2 au Québec. Je te gâche que est une expression que je te parie que, qu'on utilise tous les jours au Québec. Il fallait le traduire donc pour la France, alors ce sera un titre en anglais. Petit clin d'œil. Et donc, ben oui, effectivement, c'est un jeu que la promesse est excellente. Maintenant, j'ignore dans quelle proportion les gens y jouent ou pas. Je sais que 60 à 70 % des Monopoly ne sont pas déballés. Mais bon. Maintenant, j'ai quand même de très bons retours sur le jeu. Quand les gens m'en parlent, peut-être que ceux qui m'en parlent pas, qu'ils y ont pas joué, mais les gens, c'est évidemment pas le truc qu'on va jouer 10 fois, mais à 10 €, si vous jouez une fois ou deux, je crois que vous avez fait vos frais. Et ça crée des moments inhabituels. Ça pimente une soirée, en fait. Et puis, je crois que cette promesse-là est suffisante avec le prix pour expliquer le succès.
Ouais, parce que là, ça sert à rien de racheter 2 fois la boîte, hein, par contre. Tu peux pas, pour faire 2 soirées différentes. Et t'as pas mal de jeux qui sont basés sur la communication. C'est alors que tu dis que tu pousses aussi du cube. C'est pourquoi? C'est parce que c'est un créneau? Parce que c'est un, je sais pas. C'est là. Tu penses que c'est là où il y a le marché? C'est là où tu sais mieux les vendre? Ou
c'est peut-être le genre de jeu que j'arrive peut-être à vendre, oui, puis à saisir moi-même, parce qu'on a des intuitions. Et puis on se dit, ouais, je me vois bien vendre ce jeu-là, parce que bon, au début, c'est pas quelque chose qu'on a en tête, et je voudrais vraiment pas avoir l'air trop mercantile. Mais les jeux, quand on les publie, faut les vendre, parce que sinon, ben, y a pas de pain, y a pas de beurre sur la table. Et j'ai confiance en mes intuitions dans ce type de jeu-là, qui repose sur une idée assez simple. C'est très américain, en fait, comme jeu. Hein? On a une règle ou deux, et puis on va décliner. Donc, Bluff Party, on a les défis secrets à accomplir. Il y en a 150 dans la boîte, mais tout fonctionne avec la même règle. Super comique qu'on a fait avec Roberto, justement. Ben, on se lance un duel, donc il y a 100 duels différents. Le monde est fou. On a faut que le psychologue arrive à trouver le trouble de personnalité de ses patients, et il a fallu trouver 400 troubles pour meubler la boîte. Donc, il y a toujours une idée de déclinaison dans nos jeux. Et c'est un truc qui me vient naturellement, que ce soit comme quand je le développe moi-même ou quand on me le propose. C'est là que je clique. Je pense souvent à Bruno Catala qui dit « Je suis égoïste. Quand je développe un jeu, ben je le fais un peu pour moi-même parce que je veux faire des jeux auxquels j'ai envie de jouer. » Et moi, ben même chose, je veux faire des jeux auxquels je crois quand je les vends. Et je veux faire des jeux que j'ai envie de vendre, qui m'amusent à vendre, en fait. Parce que si je voulais faire plus d'argent, j'aurais probablement choisi un autre métier où j'aurais gardé ma permanence de prof. J'aurais eu beaucoup plus de vacances. Et donc, je me suis fait... Je peux pas expliquer pourquoi je fais beaucoup de jeux de communication. Probablement parce que j'aime les jeux avec beaucoup d'interactions. Si on prend justement mes jeux de cube en bois préférés, il y a notamment El Grande, qui est un jeu qui, pour un jeu à l'allemande, a vachement d'interactions entre les joueurs. On peut se faire des coups de... on peut se le permettre. On peut se faire des coups de pute assez solides dans El Grande. Donc, j'aime beaucoup l'interaction entre les joueurs. Donc, la communication vient de là. Pour le reste, ça va avec ce qu'on se propose, avec notre intuition, notre instinct.
Même Québec, qui est pour le coup le jeu que le Scorpion Masqué a édité et qui est pour le coup un jeu de cube en bois, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Et c'est un jeu qui me semble pas beaucoup marché. Ton grand regret, est-ce que du coup c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que tu repartes pas dans ce genre de jeu?
Alors, c'est vrai que Québec est un jeu avec beaucoup d'interactions parce qu'on offre aux autres joueurs les actions qui sont disponibles de la même façon qu'on va donner un coup de main aux autres joueurs. Et en plus, ben, y a la notion de majorité qui, comme dans El Grande, provoque beaucoup d'interactions. Pourquoi maintenant il n'y a pas de nouveaux jeux de stratégie au Scorpion Masqué? C'est que c'est un travail de fou et on ne le dira jamais assez. Ce jeu-là, au niveau mécanique, je vais le défendre bec et ongle parce que je sais qu'il est très, très solide. Maintenant, il a des défauts, notamment au niveau du design. On en est conscient, voilà. À sa sortie, on est en coédition avec Hystérie qui l'a pris sous son aile parce que c'est un bon branding pour le genre de jeu que c'était. Ben, le jeu a été un peu éclipsé par un autre jeu. Au fond, je me lance dans l'humour. Si vous savez de quel autre jeu je parle. Donc, il y a la notion du temps que ça prend pour développer ce genre de jeu, le risque que ça représente, et aussi bête que ça puisse paraître, ben, depuis Québec, j'ai eu deux enfants. Et développer ce genre de jeu-là, je n'en ai plus le temps, littéralement. Je n'ai plus le loisir de chaque semaine m'asseoir pendant 2-3 heures avec un groupe de testeurs et de prendre une demi-heure pour briefer les gens sur ce qu'on va tester, jouer pendant 1h30, 1 heure ensuite de debriefing et après ça, des heures et des heures pendant la semaine pour faire des tableaux Excel, pour s'assurer que chaque action a son équilibre, blablabla. C'est un travail colossal que j'aimerais bien recommencer parce que maintenant, j'ai une expérience et beaucoup plus grande, mais c'est juste pas possible. Il faut être réaliste aussi. Mon premier désir, c'est comme je le disais, c'est d'arriver à vivre du monde du jeu de société parce que j'ai une passion incroyable pour le jeu. Et maintenant, je fais des choix en conséquence.
Est-ce que la piste, par exemple, des jeux minimalistes, il y a une grande vague du jeu minimaliste en ce moment, et il y a des jeux minimalistes qui mêlent de la gestion. Est-ce que, par exemple, ça peut être une piste, des choses qui peuvent t'intéresser? Est-ce que tu as vu des choses
Ben, j'ai joué à la version anglaise, c'est Sales to India, mais Yellow l'a refait sous la route des Hélènes, quelque chose comme ça, les routes des Hélènes. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, oui, ce serait pas impossible de voir un jeu comme ça au Scorpion Masqué. Maintenant, quand il y a de la gestion, on vient rarement me le proposer. Peut-être à raison. et voilà. Maintenant, j'ai quelques protos sous le coude qui sont pas nécessairement dans la vague minimaliste, mais qui sont bon un peu plus de gestion, stratégie, tout en restant simple au niveau de la règle et efficace au niveau des mécanismes. C'est pas impossible que je sorte un truc comme ça. Maintenant, la vague minimaliste, j'ai l'impression qu'on est trop dedans. Et si je sors un jeu dans un an ou deux minimaliste, j'ai peur que ça soit essoufflé. Je le souhaite pas à Yellow, parce que de ce que j'ai vu, les jeux me semblent très très bons. Mais vaut mieux être un petit peu au devant de la vague. Donc faut arriver à prévoir ce qui va être cool ou in dans un an ou deux. Ce qui est pas facile.
Alors tu pronostiques quoi pour dans un an ou deux? Tu sais pas?
Non, je sais pas. Je suis pas devin. Mon Dieu, on a eu quoi? Tu sais, je suis très bon pour analyser le marché, mais après coup. Donc, ça, c'est mes études littéraires, sans doute, qui m'ont aidé à comprendre. Mais juste au moment, justement, où je sortais Québec, tout à coup, les jeux de cube en bois avec des thèmes assez secs et sans hasard, qui étaient très, très forts depuis Kélus, depuis 2005, eh bien, ils ont commencé à perdre beaucoup de galons en 2010-2011 pour des jeux à saveur thématique beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de dés, beaucoup plus de hasard. Donc, il y a eu ce changement-là, des esthétiques beaucoup plus éclatées, des univers plus éclatés. Bon, il y a eu la vague minimaliste qui est arrivée. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, il y a eu les jeux coop en 2008 qui ont sorti beaucoup. Ghost Stories, il y a eu le deck building. Donc, tout ça, on peut le dire après coup, on fait de l'analyse, mais il n'y a pas une anthologie littéraire qui est capable de dire ce qui, aujourd'hui, est le courant dominant ou le courant qui va changer les choses.
Non. C'est marrant parce que moi j'avais pas l'impression qu'il y avait spécialement des modes. Alors effectivement en ce moment oui, le minimalisme oui, mais ces modes que tu déclines comme ça, moi j'en avais jamais entendu parler personnellement, mais j'avais pas ce sentiment comme ça.
On peut mettre, ben je pourrais mettre des dates très précises des jeux qui, ben, quand vous lisez une anthologie littéraire, que vous suivez un cours d'histoire, vous allez toujours avoir les moments marquants. Donc quelles œuvres sont venues changer le truc et quelles sont celles qui ont suivi. Donc là aujourd'hui, il faut voir quel jeu différent arrive et qui change la donne et qui vient apporter la vague. Donc pour le jeu minimaliste, ça a été Love Letter qui l'a introduit, je crois. Et bon, le reste suivi. Maintenant, qu'est-ce qui va marquer cette année? Ben, faut regarder Cannes, faut regarder Durambert et SN en fait. Il y a une mode, je crois, une petite mode de jeu de cartes. Donc, notamment, il y a une gamme chez Philo qui marche assez bien. Est-ce que ça va être quelque chose dans lequel les gens aiment jouer aux cartes. Donc, un jeu de cartes qui n'est pas traditionnel, mais en même temps qui nous rappelle ce sentiment-là. Mais on a besoin d'un univers justement plus éclaté. Donc, chez Yellow, une gamme assez jolie là, avec le Roi des Nains et compagnie. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui va devenir marquant ou qui va simplement passer sans avoir été dominant comme peuvent l'être aujourd'hui les jeux minimalistes? Minimaliste aussi, des fois, c'est un peu trompeur parce que le jeu peut être minimaliste dans sa règle ou dans son matériel ou dans ses mécanismes. Donc, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il ne faut pas se laisser tromper et tout englober dans le même mot.
On est rendu loin?
Ouais. On va revenir à des choses plus terre à terre. Je te propose de nous présenter du coup tes nouveautés canoises que tu as prises avec toi.
Oui.
Donc, ta nouveauté principale, c'est Kybergagne?
Oui.
Tu peux peut-être nous présenter Kylordin avant et comme tu veux. Et on parlera de Kybergagne après parce que c'est un nouveau pari,
oui.
Un jeu un peu plus gros. Donc, vas-y pour Kylordin.
Alors, Kylordin, au Québec, justement, il a un titre différent. Il s'appelle « Tu dors au gaz », qui est une expression bien de chez nous, qui signifie « Vous avez manqué une opportunité parce que vous n'étiez pas attentif ». Donc, Kylordin est sorti un peu avant les fêtes en 2014. Et l'idée, c'était justement un peu la suite de Bluff Party, notre plus grand succès. Donc, un jeu qui se joue en même temps qu'autre chose. Et cette fois-ci, ce sera en même temps qu'on est à table. On va poser sur la table, au milieu des assiettes, des plats de service, des cartes bleues et rouges, sur lesquelles il y a chaque fois un déclencheur et une réaction. Par exemple, on peut lire « Si le maître mentionne un moyen de transport, le premier joueur à répondre « Chouchou » va gagner la carte et devenir le nouveau maître. Les cartes rouges, on les attribuera au joueur qui a été le plus lent à répondre. Elles font perdre un point. Premier joueur rendu à 3 points gagne la partie et s'évite la corvée de vaisselle. C'est complètement débile, c'est complètement hors norme. C'est le genre de jeu auquel on va jouer deux fois, mais pour 12 euros, je ne crois pas que ce soit un grand problème. Et vraiment, ça fonctionne parce que l'oncle machin qui ne veut rien savoir de jouer à des jeux, puisqu'il y a un enjeu justement, mais complètement débile, tu ne feras pas la vaisselle, oncle chose. Mais là, il va se mettre à jouer dans la partie, il va vraiment s'impliquer, il va être très, très fier parce qu'il y a quelque chose à gagner. Et voilà, donc on très fier de la sortie. Malheureusement, on n'a pas le gros succès qu'on espérait, mais bon, il n'est pas impossible non plus de réanimer la chose. Voilà, peut-être que vous y participerez.
Puis on peut proposer des plus grosses récompenses, quoi, des bouteilles de champagne, des voilà quoi.
On joue quand tu veux chez toi, Stéphane.
Et la sortie cannoise, en fait, qui est en avant-première, le jeu sera en boutique le 10 avril 2015. Donc aujourd'hui, on est fin février, un gros mois avant la sortie. Keeper Gang est une plus grosse boîte que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant au Scorpion Masqué. Tout le monde voit le petit format carré sur Facebook ou sur notre site, mais en fait, la boîte fait à peu près le triple de la taille normale. Le principe est fort simple. C'est un jeu que j'avais repéré chez un éditeur américain qui s'appelle R&R, qui avait déjà commis Time's Up. Ça vous dit quelque chose? et donc, sur papier, je trouvais l'idée amusante. Je me suis dit, tiens, c'est assez Scorpion Masqué comme jeu. Et quand j'y ai joué, j'ai été soufflé, mais j'ai rarement vu un jeu avoir autant de succès dans mes tests. On pose sur la table 11 cartes, 11 images, ce sont des photos. Il y en a 300 différentes dans la boîte. Tous les joueurs ont 90 secondes, c'est pour 3 à 8 joueurs, donc tous les joueurs ont 90 secondes pour réaliser 5 paires à l'aide des 11 images. Donc on va associer des photos, par exemple, pour la couleur, parce que bon, il y a des fraises rouges et un cœur rouge. On va associer pour des questions de thème, donc les fraises, on aurait pu les placer aussi avec les pommes de terre, parce que les fruits et légumes. On a un escargot qu'on pourrait associé avec la roulette de ruban adhésif parce qu'ils ont à peu près la même forme, et on pourrait l'associer aussi avec la tortue parce que ce sont deux animaux qui sont assez lents. Bon, vous voyez le genre de dilemme devant lequel on est posé. Une fois que les 90 secondes sont écoulées, eh bien, on va comparer nos paires avec celles des autres joueurs. Et comme dans Un animal, on marque autant de points pour chacune de nos paires qu'il y a de joueurs qui l'ont faite. Donc, nous sommes, par exemple, 4 joueurs à avoir associé les dés avec le pion, ben nous marquons chacun 4 points. Et si on est le seul à avoir commis une paire, ben on marque 0 point pour cette paire. 4 manches de cette façon, le joueur qui a le plus de points l'emporte.
C'est rapide, du coup.
Le jeu se joue en 20 à 30 minutes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il est très simple à mettre en place, à expliquer. Mais il a une part créative, parce qu'il faut vraiment créer les liens, il faut les trouver, surtout vers la fin. Quand il vous reste 3 ou 5 images, là, faut tordre le jeu, il faut vraiment aller chercher loin. Il est créatif, donc, mais sans nous laisser devant la page blanche. Parce qu'il y a des jeux qui nous demandent d'improviser, et c'est pas donné à tout le monde d'improviser out of the blue, comme disent les Chinois. Et celui-là, ben, dans le pire des cas, on met 2-3 cartes ensemble, puis voilà, j'ai fait mes paires. Donc, le jeu nous aide dans la construction, dans la créativité. Donc, c'est pour ça qu'il est beau. Et quand on explique nos liens, évidemment, après coup, ben là, on a des moments magiques. J'ai joué avec Monsieur Fall cet été. Il place le bol de céréales des cornflakes avec le flocon de neige. Il dit, ben, tous les deux, c'est des flocons. Je dis, waouh, c'est beau. Non, il y a vraiment des trucs. Ou parfois, ben, carrément, pourquoi t'as mis la sirène avec le train? Non, mais, et là, mais oui, mais, oui, c'est ça, quand je suis avec, donc bon, et c'est ce qu'on retrouve dans le jeu, c'est vraiment un jeu avec une certaine poésie, bon, vaguement Dixit, mais, enfin, j'adore Dixit, mais c'est un jeu qui, je crois, est plus accessible parce qu'on n'a pas à créer autant, aller aussi loin, en fait. Donc, gros coup de cœur ludique, Keeper Gang, vraiment. Quand je vous dis que je suis un amoureux des jeux, celui-là, ça fait 2 ans que j'y joue régulièrement et je le sors toujours avec autant de plaisir. Donc, voilà.
Et du coup, ton travail de développement du jeu, puisque si t'as mis 2 ans pour le sortir, c'est-à-dire que t'as pas pris juste la version américaine et que tu l'as juste francisé, t'as retravaillé les images, t'as retravaillé plus de choses que ça?
Alors, j'ai eu les droits il y a 1 an, parce que ça a pris 1 an avant d'avoir les droits. Ça a été long. Toute une bataille. À un moment donné, je les avais plus, puis je les ai re-eus, donc c'était compliqué. J'ai eu les droits à Cannes il y a 1 an. Et là, gros travail au niveau des illustrations, parce que la boîte était, on peut le dire, ils comprennent pas le français, plutôt moche, la boîte anglaise. On trouvait le titre. Mais aussi, on a changé 20% des photos. On a aussi changé toute la feuille de score. Normalement, dans la boîte originale, ça prenait 1 feuille par joueur par manche. Donc, on abattait un arbre à chaque partie. Et là, ben, on a une seule feuille. Oui, j'en plante des arbres. Et là, on a besoin d'une seule feuille pour toute la partie pour un joueur. Ensuite, on a tout revu la façon de faire les paires, parce qu'avant, il fallait écrire. Donc, je mets les fraises, et on écrivait fraises avec le cœur, je mets la tortue. Avec... Là, on a un système de jetons et de cartes numérotées qui nous permettent de créer nos associations beaucoup plus simplement et beaucoup plus efficacement. On a aussi revu, et ça, vous allez trouver ça vraiment bête, mais on a testé à peu près 4 façons différentes de noter ces points pour que ce soit le plus ergonomique possible. Donc, au début, on avait imaginé une piste de score, un peu à la Dixit, donc à l'intérieur de la boîte, on se promène autour d'une plus petite boîte qui contient le matériel, et les fichiers étaient tout terminés, et on s'est rendu compte qu'à la manipulation, c'était horrible, parce que si on est 6 joueurs à avoir fait la même paire, on doit être 6 joueurs à aller prendre son pion et à l'avancer sur la piste, et ça faisait énormément de manipulation. Les Américains disent que c'était très « fiddly ». Et on avait un autre problème aussi, c'est que comme en début de partie, on a beaucoup le même score que les autres joueurs parce qu'on marque les mêmes points que eux, ben ça nous prenait d'immenses cases pour que tous les pions puissent se loger, mais comme on atteint de grands scores, ça nous prenait une piste qui se rendait à 100, ce qui était impossible. Alors, on se dit, tiens, on va prendre une feuille de score. Est-ce qu'on en fait une seule pour tous les joueurs et c'est un joueur qui note, ou on prend chacun notre feuille? Donc, encore là, une fois, test. Maintenant, on a décidé que chacun a notre feuille. Est-ce qu'on prend un truc effaçable avec un feutre, ou on prend un truc qu'on écrit avec un crayon de plomb? Et là, toutes les questions, qu'est-ce qui est le plus écolo, qu'est-ce qui est le plus économique aussi? Parce que, bon, j'en parle souvent, mais la question écologique est super importante pour moi. Alors, tout ça a pris 2 soirées complètes à tester la meilleure façon de noter ses points. C'est bête, mais c'est important parce que on s'en rend pas compte quand on joue. Mais si on est tout le temps interrompu, notre plaisir est diminué, mais on sait même pas pourquoi. Et tout ça a été réfléchi.
Alors, au final, c'est comment on note les points?
Alors, au final, chacun a sa feuille de score et marque les points avec un crayon de plomb. Donc, une feuille qu'on utilise pour la partie et qui est téléchargeable sur le site. Parce que ça, c'est un autre truc. Les feutres finissent par sécher et normalement, quand on a une plaque effaçable, ça finit par se tacher. Donc, le papier, c'était ce qu'il y avait de plus écolo et économique aussi. Voilà.
OK, donc tu vas lancer un concours, on peut en parler. Ce sera en ligne, j'espère, avant le concours. ProxyJeux va participer, donc il va falloir qu'on associe des paires. C'est bien ça, hein? J'ai même pas lu ce qu'on devait faire.
Alors, le jeu est très simple. On va proposer aux joueurs de jouer. On a pris 11 images au hasard, numérotées chacune, et plusieurs participants, acteurs de la sphère ludique francophone, vont envoyer au Scorpion masqué les paires qu'il crée. Et les joueurs qui veulent participer, les internautes, vont aussi envoyer au Scorpion masqué les associations qu'il crée. On vous propose le défi de le faire en 90 secondes, comme dans le jeu, pour vivre le stress. Et les paires des internautes seront comparées aux paires les plus populaires de la sphère ludique. Donc, on a ProxyJeux, on a Ludovox, on a JeudiJeux, donc on a plusieurs sites qui participent. Donc, vraiment, c'est une espèce de truc communautaire et vous allez vous comparer non pas à l'équipe Scorpion masqué, qui de toute façon est une seule personne, mais vraiment, qu'est-ce que les acteurs du monde ludique, la presse, en dit. Donc, je trouvais le clin d'œil amusant. Et la même journée, c'est en mars, je me souviens plus quel jour, je vous ai dit, je crois le 13 mars, ça devrait être en ligne et les gens vont pouvoir justement télécharger l'image et puis nous envoyer leurs photos par courriel. Courriel électronique, courriel email, voilà.
On aura compris tous les termes. Et il est possible de jouer, bien sûr, sur ton stand à Cannes?
Alors, à Cannes, c'est notre grosse sortie. On a toujours au moins une table, si c'est pas 2 qui jouent à qui perd gagne. Les retours sont super bons. C'est seulement la première journée, mais déjà, c'est très prometteur. Et il faut bientôt qu'on y retourne, d'ailleurs, parce que il approche l'heure de la fermeture.
Oui, ça va fermer, je pense. Du coup, on va terminer là-dessus. Juste pour savoir, c'est jouable avec des enfants aussi? Tu mets 10 ans et plus sur la boîte?
Alors, ça, c'est une question de marketing. Si je mets 8 ans et plus sur la boîte, parce que le jeu est jouable à 8 ans, le jeu va être placé avec un public de joueurs que parfois même limite placé avec les jeux enfants. Et je ne veux pas. Donc, je veux vraiment le vendre, le marketer comme un jeu qui sera ado-adulte. Oui, vous pouvez jouer en famille avec vos enfants, mais c'est juste dans l'approche parce que les vendeurs ne voient pas tous les jeux ou ne les apprennent pas tous. Et parfois, il y a des erreurs aussi bêtes que le jeu a été placé dans la mauvaise section et puis il se vend mal parce qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, je veux vraiment qu'il soit vendu comme un jeu d'ambiance plutôt pour adultes, mais que vous pouvez jouer en famille aussi. Voilà, donc la raison pourquoi on met 10 ans et plus sur la boîte.
Ok, super. Écoute, merci Christian pour toutes ces infos. Je pense que c'était un moment qu'on voulait parler de Scorpion masqué, de ta façon de voir le monde du jeu. Merci.
Merci pour votre intérêt. Puis longue vie à ProxyJeux.